Et on va maintenant retrouver Dominique Tremblay pour parler de parasport. Comment vas-tu, Dominique?
Très bien, toi, Denis?
Oui, ça va très bien. Je suis toujours content quand tu es en onde avec nous. On va parler des Jeux du Commonwealth qui se sont terminés en fin de semaine. Et c'est un événement important dans le monde du parasport.
Oui, c'est ça, les Jeux du Commonwealth regroupent des compétitions de parasport qui compte au tableau des médailles, comme par exemple l'athlétisme, la natation. On peut aussi parler de boxe, et ainsi de suite. Alors, il y avait 6 sports paralympiques qui étaient représentés. On parle de le paraathlétisme, la paranatation. Il y avait la dynamophilie, le paraboulingrin, qui ressemble un peu à la pétanque, le paracyclisme, et le basketball 3 contre 3 se déroulait à Glasgow, en Écosse. Et c'est une bonne chose pour le parasport. Là. On parle que les événements de parasport ont fait l'apparition en sport de démonstration lors des Jeux de 1998 à Victoria. Et c'est à Manchester en 2002 que les résultats du parasport comptaient au même titre que les autres compétitions. C'est d'ailleurs Chantal Petitclerc en 2002 qui a remporté la première médaille de parasport qui comptait au classement des médailles. Une autre belle performance de Chantal Petitclerc dans sa glorieuse histoire. Donc, en 2026, le Canada était représenté par 35 athlètes. Il était présent dans 4 sports, donc en paranatation, para-athlétisme, para-boulingrin et le basketball 3 contre 3. Le Canada a remporté 10 médailles, une d'or, 3 d'argent et 6 de bronze dans les épreuves de parasport. Et le Canada a terminé 3e au classement général de toutes les médailles. Donc, la performance des athlètes canadiens et les para-athlètes canadiens. Puis les Jeux du Commonwealth, c'est quand même 2 ans avant les Jeux paralympiques et olympiques de Los Angeles. Donc, c'est quand même une bonne préparation.
Oui, puis je pense qu'il faut souligner que les parasports sont disputés ou sont les compétitions de parasport ont lieu en même temps que les compétitions de sport. Là.
C'est tout, oui, c'est ça.
C'est pas 2 semaines avant là, ou 2 semaines après là, comme on fait aux Jeux olympiques.
Ouais. Tout est intégré. Donc, à 100 mètres dans la catégorie T47, par exemple, pour les athlètes qui ont une amputation, se déroule 5 minutes après la finale masculine du 100 mètres. Donc, tout est intégré 100% dans les mêmes sites de compétition. Donc, tout le monde est même traité au même pied d'égalité. C'est un peu péjoratif le mot que j'utilise. T'sais, ça pourrait dire que bon, le paralympique et olympique, c'est pas la même chose. Mais bref, c'est juste une question de logistique aussi que les deux sont les paralympiques et les olympiques, ça ne sont pas intégrés. Mais dans le monde des Jeux du Commonwealth, qui regroupe des pays de l'ancien empire britannique, on a la capacité de faire toutes les épreuves en même temps, ce qui est une bonne chose pour tout le monde.
Je fais une parenthèse là-dessus parce qu'on sait que souvent, les conditions de neige, je me rappelle les derniers Jeux olympiques et paralympiques qui ont eu lieu à temps, faut que je me rappelle, c'était en Italie, si je ne me trompe pas.
C'est ça, à Milan-Cortina.
Et les conditions de neige pour les para-athlètes qu'on dit, ou les athlètes
paralympiques.
Ouais. Alors, eux se sont retrouvés à faire des compétitions sur des conditions de neige qui étaient beaucoup moins bonnes que celles qui étaient 2 semaines plus tôt pour les athlètes olympiques.
Évidemment, là, on part encore pire, plus que des conditions de ski de printemps. Là. On voyait la piste, ouais, par exemple, de paradescente, et de chaque côté de la piste, on voyait du gazon. Là. C'était juste où les athlètes devaient passer en ski, où il y avait de la neige. Tout le reste, c'était vert, comme si on était presque au milieu de l'été. Là. Donc, c'est quelque chose que le comité paralympique et olympique devront travailler là, en termes d'organiser l'horaire pour les Jeux paralympiques d'hiver à cause des changements climatiques. Ça cause certains maux de tête aux organisateurs.
Ouais, alors, je retourne. Excuse-moi, je t'ai interrompu parce que je trouvais que c'était important de le souligner. Donc, ces Jeux du Commonwealth se sont bien déroulés. Le Canada a fait bonne figure. Je ne sais pas si je l'ai demandé. Est-ce qu'il y a des athlètes qu'on doit retenir dans les parasports?
Il y en a plein. Là. il y a quand même...
Ton coup de cœur.
C'est ça. Donc, il y a 35 athlètes canadiens qui étaient là. C'est des athlètes qui sont... c'est une grande variété là, des athlètes qui ont beaucoup d'expérience, comme Nicolas Guy Turbide, là, un nageur, un paranageur québécois, qui a participé à plusieurs Jeux paralympiques et à plusieurs Jeux du Commonwealth, était sur place. Mais il y a aussi des recrues qui seront à surveiller à Los Angeles. Donc, c'est vraiment une compétition là, qu'on peut retrouver un peu tout et peut dire « Ah, c'est peut-être des noms à retenir pour le futur » ou encore « Ah, c'est des noms que je connais là ». Donc, c'est vraiment un amalgame de plein de choses, les Jeux du Commonwealth.
Bien, génial. On va passer à un autre type de jeu. Ben oui, les Jeux olympiques. Mais on va souligner donc le 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal. Est-ce qu'il y a eu des Jeux paralympiques à ce moment-là?
En fait, oui, les Jeux... à ce moment-là, ça s'appelait pas les Jeux paralympiques, mais il y a une compétition pour les athlètes qui vivent en situation de handicap. C'est déroulé à Toronto, 2 jours après la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Donc, la compétition s'appelait les Toronto Olympiades pour athlètes en situation de handicap. On a retrouvé 1271 athlètes. C'était la première fois aussi qu'on voyait des athlètes avec une déficience visuelle ou encore des athlètes qui leur manquaient maintenant une jambe ou un bras, une amputation. Par le passé, c'était majoritairement des athlètes qui se déplaçaient en fauteuil roulant, qui participaient aux Jeux paralympiques. Et c'est aussi la première fois que les Jeux ont été diffusés à la télévision dans le sud de l'Ontario. Il y a plus de 600 000 personnes qui ont visionné les compétitions. Il y avait 41 pays qui étaient représentés dans 13 sports différents, dont le tir et le goalball. Le goalball qui est un sport pour les personnes qui ont une déficience visuelle. C'est leur apparition aux Jeux paralympiques. Il faut rappeler que donc les comités organisateurs des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques n'étaient pas un seul comité organisateur comme on retrouve présentement là, à Los Angeles ou à Paris. C'était deux événements complètement différents. Et c'est seulement en 1992 là, que les comités organisateurs ont été obligés d'organiser les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques en même temps là, suite à une signature de contrat. Et c'est comme ça que ça se déroule depuis ce temps-là. Il y avait un total de 89 athlètes canadiens. C'était la troisième plus grosse délégation derrière les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest. Le Canada avait gagné 77 médailles. Donc, c'était une bonne participation des athlètes canadiens. Et ça a mené c'était la troisième fois que le Canada participait à des Jeux paralympiques. Et ça, c'est un bon commencement pour ce qu'on a vu là dans le futur, que le Canada s'illustre dans les différences parasports. Donc, c'est une bonne chose pour le Canada. C'est la première fois qu'il y avait une grosse compétition pour athlètes avec un handicap à ce moment-là.
Oui, puis on sait en 2024, la France a vraiment mis les choses de l'avant, a mis le paquet sur les Jeux paralympiques qui ont revêtu une importance aussi grande que les Jeux olympiques lors des cérémonies, lors des présentations, lors des diffusions. Et je pense que on ne pourra pas aller moins que ça, je pense, à l'avenir.
Hein? Évidemment, là, on se prépare activement là, à Los Angeles pour les Jeux olympiques et paralympiques. Et ça risque d'être une autre belle compétition. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Dans mon cas, dans mon travail, là, j'ai déjà eu la chance de me rendre 2 fois à Los Angeles pour préparer les compétitions de boccia. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ah oui, on a une petite minute, là. Tu fais quoi quand tu vas voir les installations? C'est quoi la tâche qu'on te demande de faire?
Donc, on visite le site de compétition. On révise les plans là, qui sont mis en place pour la présentation de la compétition de boccia. Donc, il y a plusieurs choses qu'on doit surveiller, comme le transport, les officiels, l'équipement, le visuel. Là, qu'est-ce qui vont être les couleurs qui vont être présentées sur le site de compétition. Plein de choses. Généralement, c'est des rencontres qui s'étale sur 2 ou 3 jours.
Oui.
Donc, c'est très occupé, très intense. mais tout ça mène à une très belle compétition là, au mois de d'août 2028. Et j'ai fait c'était le même genre de choses qu'on a fait lors des Jeux paralympiques de Paris. Donc, c'est s'assurer que tout va bien aller pour que les compétition se déroule très bien.
Ben oui, ben on utilise son expertise, en fait. Hein. Merci beaucoup, Dominique Tremblay. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission.
Ça fait plaisir. Au revoir. Passez une bonne semaine.
Oui, au revoir.